Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont des bâtiments, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Méningite, c'est l'enfant, symptômes et mode de traitement. Une méningite chez un enfant fait souvent peur. Cependant, beaucoup d'enfants souffrent. Pas toujours facile de repérer une méningite, surtout chez le petit enfant qui ne peut pas exprimer clairement sa douleur. D'après les spécialistes, certaines formes de méningite causent des graves lésions cérébrales et se révèlent mortelles dans 50% des cas lorsqu'elles ne sont pas bien traitées. Quels sont les signes de la méningite et comment la soigne-t-on? Docteur Lika Manga, bonjour.
Bonjour, Kassama.
Vous êtes médecin pédiatre à la clinique Ngalima. C'est quoi la méningite, docteur?
Oui, merci Marcel. Je voudrais tout simplement d'avoir rappelé que c'est dans le cadre de la Société de pédiatrie du Congo démocratique, dont je suis l'animateur principal, que je vous fais le plaisir de répondre à ces questions. Alors, la méningite, c'est l'inflammation des enveloppes du cerveau et des structures du système nerveux central, qu'on appelle les méninges. C'est ce qu'on appelle la méningite. Mais cette méningite, elle peut s'étendre aux autres structures de l'encéphale, c'est-à-dire tout le contenu de la boîte crânienne et de la moelle épinière, ce que nous appelons la méningo-encéphalite. Et cela est l'apanage de certains germes, principalement le pneumocoque, qui est très 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 méchant, qui peut amener à des méningites graves, comme celle que vous avez décrite tout à l'heure.
Alors, docteur Rick, quelles sont les différentes causes de la méningite chez l'enfant?
Bon, alors, il faut savoir que d'une manière générale, les méningites, étant donné que c'est une inflammation, elle peut avoir diverses causes, notamment des causes infectieuses, qui sont les plus prépondérantes. Et quand on parle d'infectieuses, on parle de germes microbiens. Il s'agit là des bactéries, il peut s'agir des virus, il peut s'agir également des champignons. Donc, trois groupes de microbes qui peuvent provoquer des méningites. Mais au-delà de ces méningites infectieuses, nous avons d'autres méningites, notamment dans le cadre des maladies chroniques, comme le lupus érythémateux disséminé, mais aussi dans les maladies cancéreuses. On peut avoir des méningites, mais qui n'ont rien à voir avec l'infection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un germe microbien qui préside à cette inflammation, mais c'est plutôt des perturbations métaboliques liées à ces maladies dont je viens de parler. Mais dans plus de 80% des cas, lorsqu'il s'agit de méningite et surtout en pédiatrie, il s'agit bel et bien d'un germe microbien qui est à la base.
C'est
une bactérie.
Et comment l'enfant, quels sont les facteurs de risque pour l'enfant, par exemple?
Bon, l'enfant a tous les facteurs de risque par le fait, d'abord, que cela tient compte de son âge, il y a la constitution de l'immunologie, de ces anticorps qui peuvent, si vous voulez, le protéger contre certains germes microbiens pour pas que ça aboutisse à une méningite. Mais il y a l'environnement dans lequel il vit, l'hygiène de tous les corps. Il y a les infections qui sont fréquentes en pédiatrie qui peuvent se compliquer en méningite. Et donc, tous ces facteurs font que finalement l'enfant est un être fragile par rapport à ça.
Et quels sont les signes de la méningite chez un enfant, une maman qui a son bébé tous les jours? Comment peut-elle repérer la présence de la méningite?
Ben, cela est fonction d'âge, monsieur le journaliste, parce que la pédiatrie, sa complexité, c'est justement le fait que tout est défini en fonction de l'âge. À chaque âge correspond des signes, à chaque âge correspond un mode de traitement, à chaque âge correspond tout un arsenal thérapeutique qui est tout à fait adapté à cet âge-là. Donc là, on va partir de la période néonatale, c'est-à-dire au moment où l'enfant naît jusqu'à l'âge de 28 jours, il y a un comportement tout à fait différent. Les signes, vous allez le remarquer, l'enfant s'est développé une fièvre, ou alors, au lieu de la fièvre, il fait le contraire de la fièvre, c'est-à-dire une hypothermie. Un enfant qui devient trop froid comme ça, ou un enfant qui devient très chaud, ça peut faire évoquer une méningite pendant cette période néonatale. Un enfant qui pleure tout le temps, ou ou qui devient trop fatigué. Un enfant qui convulse, qui peut convulser à cet âge-là, donc, ou alors qui se met à vomir tout le temps, tout le temps, tout le temps, il refuse de téter. Comme ça, ce sont des signes qui vous mettent la puce à l'oreille,
oui,
pour vous dire qu'il y a probablement un problème ici, un problème infectieux qui peut finalement être une méningite. Mais cela devrait être confirmé par un examen spécial que nous appelons la ponction lombaire. C'est celle-là qui va nous déterminer après analyse de laboratoire.
C'est quoi la ponction lombaire, docteur?
Bien, la ponction lombaire, c'est tout simplement le retrait des liquides qui se trouvent dans les crinières, souvent dans le canal rachidien.
Mmh.
Ce liquide qui est naturellement là, mais lorsqu'il y a une méningite, ce liquide se transforme. Il devient soit virulent, soit louche, et il contient des germes microbiens. Alors, à l'aide de seringues spéciales, nous retirons au niveau de l'ombre, c'est-à-dire au niveau de la colonne lombaire, nous retirons ce liquide-là que nous envoyons au laboratoire, c'est ce que nous appelons la ponction lombaire.
Voilà. Il y a d'ailleurs Alexandre Kambab et Kisangani qui nous dit peut-on faire la ponction lombaire chez un enfant pour déterminer la méningite? La méningite, est-ce que ce n'est pas dangereux?
Bon, la ponction lombaire en soi n'est pas dangereuse, dès lors qu'elle est pratiquée dans les normes requises pour la faire. Donc il y a des choses qu'il faut faire autour de cette ponction lombaire pour que ça se passe dans des conditions de sécurité. Et donc si c'est fait de cette manière, il n'y a pas de danger du tout et il n'y a pas à craindre.
Merci à tous les auditeurs qui nous ont écrit depuis la page Facebook du magazine Okapi Service. Nous parlons de la méningite chez l'enfant, symptômes et mots des traitements. Vous pouvez également participer, composer le 081-890-63-94, le standard. Il est déjà ouvert. Ernest Lukumwena Kalala de Kalimi nous a écrit, dit ceci, la méningite est une maladie, est-elle une maladie héréditaire? Et que faire pour éviter cette maladie chez les enfants?
Merci pour la question. La méningite n'est pas du tout une maladie héréditaire. C'est une maladie, comme je l'ai dit, pour la plupart infectieuse. C'est-à-dire, c'est un germe microbien venu de l'extérieur, il est entré dans l'organisme, il est allé se loger au niveau de méninges, au niveau du cerveau. Et il provoque la méningite. Donc, il n'y a aucun sens héréditaire là-dedans. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça.
Voilà. Brunel Ipanga nous appelle de Kikuit, dans la province de Bandundu. Brunel, bonjour.
Oui, bonjour Radio Parti. J'aimerais partager mon expérience avec Félix. Oui, j'avais souffert de la méningite en 2005, mais la maladie m'a laissé un peu des conséquences graves. Là. Alors je vais un peu demander au docteur, parce que mon oreille doit me fonctionner. Ça, qu'est-ce que je dois faire pour la voie de sortie pour que je puisse commencer à entendre depuis 2005?
Votre oreille droite ne fonctionne plus bien.
Oui, ça ne fonctionne plus, vraiment plus. Je n'entends plus rien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le docteur peut me dire là-dessus. Est-ce qu'il y a aussi un nettoyage ou comment?
Bien, restez en ligne, docteur Kamanga.
Oui, monsieur Zanet, j'ai bien entendu la question. Bon, il est connu que la méningite, surtout lorsque certains germes sont à la base, notamment le pneumocoque, la méningocoque, il y a des séquelles qui peuvent s'installer.
Mmh.
Des séquelles plus ou moins définitives. Les malades qui ont la chance de voir ces séquelles se résorber, eh bien, ils ont effectivement la chance, mais très souvent, ce sont des séquelles irréversibles. Parmi ces séquelles, il y a notamment la surdité qui peut être entamée, parce que lorsque la méningite affecte le système nerveux central, il y a notamment le lobe temporal qui préside à l'audition, qui peut être atteint.
Mmh.
Et donc, c'est compliqué, notamment d'une surdité. Donc, c'est pas étonnant. Ce que je peux conseiller à notre interlocuteur, c'est qu'il a d'abord fait une consultation à ORL, voir le spécialiste à ORL qui va faire l'audiométrie, c'est-à-dire qui va mesurer le degré d'audition de son oreille et voir de quelle manière il peut remédier à la situation. Est-ce que c'est une surdité de transmission? Est-ce que c'est une surdité de perception? C'est à l'ORL de pouvoir déterminer et éventuellement l'aider par rapport à ça.
Brunel, est-ce que vous êtes déjà allé voir un expert en ORL pour des examens éventuels? Brunel, vous êtes en ligne? Désolé, il n'est plus là. Christian Gabou est en ligne depuis Pandroma, dans la province orientale. Bonjour Christian.
Bonjour, j'ai dit qu'à ce moment, je suis à l'invité.
Quelle est votre question?
Et ma question est de savoir si la méningite est une maladie transmissible. Un enfant qui est atteint de cette maladie-là, est-ce que on peut mettre cet enfant à côté d'un enfant qui n'est pas encore atteint de cette maladie-là?
Docteur Lucas,
oui, j'ai saisi la question. Bon, Brunel,
la question
est pertinente parce que normalement la méningite, lorsqu'un enfant est atteint de méningite et qu'on met un autre enfant à côté de lui, il n'a pas de crainte qu'il puisse être contaminé, sauf, je dis bien sauf, dans le cas de méningite à méningocoque. Parce que la méningite à méningocoque, souvent, elle est épidémique. Et donc, on peut se transmettre ces germes à partir de la respiration, à partir de gouttelettes de salive, parce que le méningocoque peut être logé dans le rhinopharynx et au moment de la respiration, au moment de la toux, il peut sortir et affecter la personne qui est dans le voisinage et va développer la même méningite si son immunité n'est pas suffisante pour pouvoir le protéger contre. Donc dans ce cas-là, on peut se contaminer la méningite. L'autre méningite qui peut être contaminée, c'est la méningite au bacille de coq, donc la tuberculose. Parce que la tuberculose, vous savez, elle se transmet également par le gouttelet de fluige. Une personne qui est atteinte de tuberculose et donc d'une méningite tuberculeuse peut aussi transmettre à son voisinage, donc à son proche voisin, les mêmes germes par la voie aérienne. Donc ce sont les deux seuls cas où on peut rencontrer des contagions de méningite. Mais le méningite à hémophilus influenza, le méningite à l'hystéria monocytogène, au pneumocoque, ce sont des méningites qui ne peuvent pas être transmises d'une personne à une autre, à moins qu'il y ait soit échange de sang, soit échange des humeurs qui sont infectées. Et là, ce n'est pas aussi évident. Donc, méningite à méningocoque, on peut se le transmettre. La méningite au bacille de coque, on peut également se le transmettre par sa voie aérienne. Voilà.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Méningite chez l'enfant, quels sont les symptômes et les modes de traitement? Docteur Luc Amanga, médecin pédiatre à la clinique d'Alima, est invité au Okapi Service. Docteur Luc, dites-nous, alors parlez-nous à présent du mode de traitement de la méningite chez l'enfant.
Oui, le mode de traitement, comme je l'ai dit, parce que la plupart des causes sont infectieuses, le mode de traitement va consister en l'administration des antibiotiques. Et les antibiotiques qui ont une action plus prépondérante sur les microbes généralement rencontrés à ce niveau-là. Et très souvent, nous faisons une association d'antibiotiques. Alors, il faut dire qu'on n'avait pas fini la symptomatologie. Nous avons parlé de la période néonatale, mais les autres périodes, donc des enfants, des nourrissons et des grands-enfants, vous aurez des symptômes communs, c'est la fièvre, c'est parfois des convulsions, ou un enfant qui entre en coma, et lorsque vous l'examinez, la nuque est toute raide, il y a d'autres signes qui sont associés, notamment les signes de Koenig et Brudzinski, ça c'est un peu trop médical, c'est pas pour la population. Mm-hmm. Bon, donc, lorsque vous avez tout ça et vous faites la fonction lombaire, il y a une méningite avérée, vous commencez une antibiothérapie. Généralement, ici, nous utilisons les fénicolés, notamment les tiamfénicol, auxquels nous associons la cefotaxime, donc le claforan. Mais d'autres molécules peuvent être associées, notamment l'ampicilline, si on crée une méningite à l'hystéria monocytogène. Donc, on peut faire une association de trois antibiotiques à la fois, et cela pendant 14 jours au minimum, 21 jours à l'optimum. Voilà.
Voilà. Un auditeur nous révèle qu'il y a un vaccin contre, il existe un vaccin contre la méningite, et il nous dit pourquoi ne pas plaider pour que ce vaccin soit gratuit comme celui de la polio. Celui contre la polio.
Justement pour les méningites épidémiques comme celle dont je viens de parler tout à l'heure, méningite à méningocoque. il y a bel et bien un vaccin qui existe, hein, et ce vaccin est disponible dans pas mal de régions où ces méningites sont fréquentes, notamment les régions du Sahel. Et bon, même au Congo, hein, chez nous au Congo, il existe ce vaccin, mais il n'est pas dans le programme PEV. Il n'est pas encore dans le programme PEV.
Pourquoi, docteur?
Bon, c'est une histoire de programmation, une histoire de santé publique. C'est-à-dire que les vaccins PEV sont commandés en fonction des réalités sur le terrain. Si nous avons beaucoup de cas de méningite, méningocoque épidémique, bien sûr que le gouvernement ainsi que le programme PEV vont s'y atteler pour pouvoir les commander. Mais là, les vaccins qui sont disponibles sont les vaccins pour lesquels les statistiques sanitaires montrent qu'il y a un gros problème de santé publique et donc il faut conditionner ce vaccin-là.
Méningite,
bon, désir avoir ce vaccin, il peut se l'acheter, hein, on peut le trouver sur le marché.
Mais docteur, dans quelle partie du pays on retrouve beaucoup plus de cas de méningite chez les enfants?
Non, il n'y a pas de partie de prédilection. Le Congo est une entité géographique qui a un climat plus ou moins homogène, à part les régions de l'Est où vous avez un climat montagneux. Mais partout, vous pouvez avoir la méningite partout, hein. Ce n'est pas, il n'y a pas de régions privilégiées ou celles qui ne le sont pas.
Mmh. Alexandre Kamba nous appelle de Kisangani. Bonjour.
Bonjour.
Alexandre, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bon, je voulais poser des petites questions à notre invité, qui nous donne un peu la différence entre la méningite virale et bactérienne. Et la deuxième question, comment pouvons-nous arriver à différencier la méningite? Là, donc, comment pouvons-nous arriver à différencier la séquelle de la méningite et de toute maladie faisant tête du système nerveux?
Très bien. Oui, merci pour votre question, monsieur l'interlocuteur.
Monsieur Alexandre.
Oui. La différence entre la méningite virale et bactérienne est simple. La virale, elle est due à un virus, et la bactérienne, elle est due à une bactérie. Sur le plan de la clinique, de la symptomatologie, vous pouvez avoir les mêmes signes. C'est un enfant qui va avoir des maux de tête, qui va faire de la fièvre, qui pourrait avoir des vomissements en G, un enfant qui sera fatigué et qui va développer une raideur de la nuque avec des signes de clinique de vos insuffis positifs. Vous avez la même symptomatologie dans les deux cas. La différence va se faire au niveau de la ponction lombaire. Lorsque vous faites la ponction lombaire, vous avez un liquide clair dans le cas de méningite virale, alors que dans le cas de méningite bactérienne, le liquide est soit louche, soit purulent. Et lorsque vous examinez au laboratoire, vous avez également la prédominance des éléments neutrophiles pour ce qui est de la méningite bactérienne et des neutrophiles et puis des éléments altérés. Mais dans la méningite lymphocytaire, c'est-à-dire dans la méningite virale, vous avez plutôt une prépondérance de lymphocytes. Le liquide est clair et l'examen cytologique montre plutôt la prédominance de lymphocytes. C'est là la différence.
Mmh. Et voilà. Il dit comment différencier les séquelles de la méningite?
Ah bon, les séquelles de méningite, les différencier. Bon, vous savez, il y a beaucoup de pathologies qui affectent le système nerveux central. L'une des pathologies fréquentes ici chez nous, c'est le neuroparadisme, donc la malaria cérébrale, comme on l'appelle. Mmh. La malaria cérébrale fait développer également des séquelles chez les enfants, et même chez les adultes qui peuvent en être affectés. De même que la méningite. Mais la différence, c'est que les séquelles de la méningite sont irréversibles. Donc, lorsqu'elle s'installe, il y a très peu de chances que le malade récupère la fonction perdue. Tandis que les séquelles du neuroparadisme notamment, donc la maladie cérébrale, il y a beaucoup de chances que les choses reviennent dans l'ordre. C'est ça la différence. En d'autres termes, les séquelles de la méningite sont beaucoup plus profondes, alors que celles du neuroparadisme le sont moins.
Bien, Jonas Samba est à Kananga, dans la province du Kasaï-Occidental. Jonas, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Jonas?
J'ai un enfant malade, il y a de cela un mois. Il est guéri, mais après la guérison de la méningite, il dormait, parle beaucoup, menace beaucoup ses amis.
Il a quel âge votre enfant?
Il a à peu près 6 ans.
Oui.
Et puis il parle beaucoup, je ne sais pas, je pose à l'invité quel est le remède à donner à ces données pour qu'il revienne. Et sinon, je me retrouve devant un débile mental.
Merci, Jonas. Docteur Lucamanga.
Bon, nous sommes dans le cadre d'une émission d'intérêt public, mais nullement d'une consultation pédiatrique. Je crois qu'à Kananga, où il est, il peut trouver un pédiatre, il y a le professeur Zita qui est là-bas, qu'il peut consulter et va l'orienter. Mais d'une manière générale, si les séquelles sont dues à la méningite, il y a des médicaments qu'on appelle les neuroleptiques qu'on peut donner. Pour cela, je le conseille de voir non seulement son pédiatre, mais éventuellement un neuropédiatre qui peut être dans les milieux si l'enfant n'a que 6 ans.
Consulter.
Trouver des solutions. Oui. Hein, faire la consultation, c'est déontologiquement pratique et inadmissible.
Oui, mais docteur, le fait de beaucoup parler, c'est un signe.
Oui, le fait de beaucoup parler, ce sont des enfants qui peuvent être logorifes, comme on dit, ça démontre un trouble de comportement qui est lié à la méningite. Bien sûr, il faudra consulter le pédiatre. C'est un enfant qui peut être hyperactif, ça veut dire qu'il devient trop mouvementé, plus qu'avant, turbulent et tout ça. Ça aussi, c'est un problème qui peut être résolu par le neuropédiatre ou le neurologue qui peut se trouver dans le coin. Et il y a des remèdes pour pouvoir calmer ça. Voilà,
il doit aller voir un pédiatre pour résoudre son problème. Méningite chez l'enfant, quels sont les symptômes et les modes de traitement? Alors, docteur Lucamanga, parlez-nous à présent de la prévention. Comment prévenir la méningite chez l'enfant?
Bon, la prévention de la méningite va tenir compte tout simplement de ces deux méningites qui sont, si vous voulez, contagieuses. La méningite à méningocoque pour laquelle un vaccin peut être administré. Et la méningite au bacille de Koch, donc la tuberculose, pour lesquelles également il existe le vaccin, c'est le premier mode de vaccin. Mais d'une manière générale, il faut maintenir une hygiène chez l'enfant. L'enfant doit pouvoir se laver régulièrement tout le corps.
Mmh.
Parce que vous savez que le mode de contamination, c'est pas seulement par le rhinopharynx, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais toute infection au niveau de la peau, au niveau des poumons, au niveau de tous les systèmes peut, par voie hématogène, atteindre les méninges et faire développer également une méningite. Donc, éviter toute occasion d'infection chez l'enfant, c'est déjà une façon de prévenir la méningite.
Mm-hmm.
Un lavage quotidien correct, un lavage de la cavité buccale correct, une consultation ORL fréquente pour éviter, pour pallier à toutes ces infections qui affectent les enfants à tout moment. Et voilà, donc ça, ce sont des mesures accessibles auxquelles on peut recourir pour prévenir les cas de méningite. Mais dans les autres situations, c'est assez difficile. C'est le malade qu'on va retrouver à l'hôpital parce qu'il a déjà développé sa méningite. Ce qui est arrivé en amont, il y a pas mal de paramètres qu'il faudra analyser. Donc voilà. Donc une hygiène du corps, une hygiène de la qualité buccale. La prévention des infections d'une manière générale, surtout les infections respiratoires, parce que celle-là, elle se complique aussi également de méningite. Et bien sûr, le vaccin contre le méningocoque, le vaccin contre le bacille de coque, donc la tuberculose. Voilà.
Vous avez dit que ce vaccin est disponible ici chez nous?
Oui, le vaccin est disponible ici chez nous, mais il faut, c'est pas de prescription médicale, là. Donc, le médecin qui estime que le malade devrait avoir ce vaccin, il va le prescrire, il va le chercher et puis on va lui administrer cela. Mais il n'est pas encore dans le programme PEV.
Bien, docteur Lucamanga, médecin pédiatre à la clinique de l'ALIMA, je vous dis merci et bon début de semaine.
Merci monsieur le journaliste, c'est à moi de vous remercier. Remercier également les auditeurs qui ont porté l'intérêt à cette émission. Et à la Société de pédiatrie du Congo démocratique que nous avons le plaisir d'animer.
Mmh.
Ben, je dis un grand merci à tout le monde.
À la prochaine.
Ouais, okay.